on va parler des États-Unis. Je remercie d'abord les organisatrices et organisateurs pour ce colloque. Je remercie également Sophie Béroux et Louise Boivin pour m'avoir préparé un peu le terrain, c'est-à-dire pour avoir contextualisé sans que j'aie à le refaire. Quoi, en partie, on va dire que quand même le droit du travail aux États-Unis et dans les États du Sud n'est pas le même droit que le droit provincial au Québec, mais pour ce qui est des élections, pour ce qui est de la représentation, c'est assez similaire. Voilà, moi je suis parti d'un terrain, ça s'affiche pas forcément très bien. Donc aux États-Unis, pour résumer, aux États-Unis depuis 2012, des mobilisations visent pour la première fois en 50 ans d'existence des grandes entreprises et services qui sont aussi les plus grands employeurs mondiaux, à savoir Walmart, le grand distributeur Walmart, et McDonald's ou encore d'autres grandes entreprises des fast-food. Qui compte aussi parmi les principales entreprises qui utilisent de nombreuses stratégies antisyndicales. En 4 ans, ces manifestations, qui sont menées principalement par les employés à bas salaire, mais pas seulement, comme on va le voir, qui sont soutenues par les grands syndicats des services, se sont étendues à plus de 300 villes et à de nombreuses industries, et plus récemment à une trentaine de pays. Même si là encore, comme on peut le voir au Québec, c'est quelque chose qui est quand même assez différent. Les employés engagés dans ces mobilisations réclament principalement un salaire minimum de $15 de l'heure. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le minimum fédéral actuel est de $7.25 et le droit à un syndicat dans leur entreprise sans subir de représailles. Pour ce qui est de l'approche de cette recherche, je vais développer vraiment une petite partie et j'ai plutôt écrit sur la question de l'intersectionnalité, mais plus en termes de lutte que dans les interactions. J'ai travaillé plus sur cette question que sur la relation de service, même si on pourra revenir là-dessus dans les questions. Je propose dans cette recherche, qui est une recherche exploratoire, d'articuler une sociologie du travail des grandes entreprises et services et du travail syndical d'organisation, je vais parler d'organizing, dans ces emplois à bas salaire pour comprendre les enjeux à la fois organisationnels et politiques derrière l'expression émergente de la conflictualité au travail. Je m'appuie donc sur un terrain nord-américain dans un contexte critique. Là encore, pour aller très vite, d'abord, le mouvement syndical, après 60 ans de déclin, se tourne aujourd'hui vers une population longtemps ignorée, à savoir les travailleurs pauvres du tertiaire, et notamment les femmes et minorités ethniques travaillant à temps partiel. D'un autre côté, c'est un contexte critique pour les grandes entreprises des services comme Walmart ou McDonald's, qui ont une influence socio-économique majeure, mais qui font face à un ralentissement de leur croissance depuis une dizaine d'années et qui opèrent en retour des restructurations discrètes. Donc à la rencontre de ces trajectoires syndicales et d'entreprises, et suite à la crise de 2008, différentes associations sont apparues, telles que Our Walmart ou Fight for 15, qui, tout en étant financées par les principaux syndicats des services, sortent des stratégies légalistes traditionnelles de syndicalisation qui sont dans ces entreprises vouées à l'échec. Donc l'enjeu premier de cette recherche, c'est de questionner l'émergence des conflits du travail par une double focale. D'une part, en appréhendant les mutations du travail et de l'emploi non qualifié, les ressorts de la conflictualité du travail, de son expression à travers des entreprises emblématiques des services, et d'autre part, en analysant les ressorts de mobilisation qui impliquent des employés, souvent caractérisés par la fragilité de leurs dispositions favorables à l'action collective, et surtout des syndicats qui montrent un intérêt très tardif pour une main-d'œuvre qui travaille dans ces entreprises très difficiles à syndiquer. Donc là, je vous ai fait un schéma pour résumer un peu les débats sur la revitalisation. Donc les chercheurs les plus enthousiastes pensent qu'on serait passé d'un syndicalisme d'affaires à un syndicalisme de mouvement social. Ça a été dit auparavant, mais là je vous mets le principal point. C'est-à-dire le côté, on a une approche aujourd'hui qui serait horizontale peut-être, des campagnes qui contournent le droit du travail, qui est très restrictif pour les syndicats et pour les employés. Voilà. L'idée, c'est également d'essayer d'organiser toute une branche et non seulement une minorité qui serait privilégiée. Et d'un autre côté, on a cette opposition entre, d'un côté, des syndicats traditionnels ou d'affaires où sont principalement représentés les hommes blancs, plutôt âgés, travaillant dans le secteur industriel. Et là, on passe à un syndicalisme des services très différent et qui vise des populations qui ont longtemps été oubliées. Donc, j'aborde ici une partie de cette recherche exploratoire autour de la question de l'intersectionnalité dans les services, et moins de la relation service, mais davantage dans la question des rapports sociaux, et notamment les rapports sociaux dans ce travail syndical d'organisation des employés. Donc, c'est principalement des terrains ethnographiques. Je vais vous parler surtout des terrains que j'ai faits dans les États du Sud, des États dits « right to work ». Il faut savoir qu'aux États-Unis, à peu près la moitié des États, principalement dans le Sud et dans le Midwest, sont régis par des lois « right to work ». Pour faire simple, avec ces lois, Les employés, en fait, dans une entreprise syndiquée, ne sont pas obligés de payer leurs cotisations, ce qui amène à appauvrir les syndicats localement et à essayer de repenser les stratégies de syndicalisation, donc en essayant d'éviter ce modèle traditionnel qui a encore moins de chances dans ces états-là. J'ai essayé quand même de polariser. Pour vous donner une idée en termes statistiques, en fait, la lutte pour les 15 dollars, c'est une lutte qui est au croisement des dominations de classe, de genre et de race. D'abord avec une surreprésentation des femmes et des personnes de couleur. Alors, je reprends les termes qui sont critiquables, mais les termes américains par rapport aux statistiques sur la question. Mais l'objectif du salaire minimum de 15 dollars de l'heure fixé par Fight for 15 contre un salaire minimum donc de 7,25 représente un enjeu majeur pour une grande partie de la population active. Il faut savoir qu'il y a à peu près 64 millions d'employés qui touchent moins de, soit 42% de la population active qui touche moins de 40 dollars, de pardon, de 15 dollars de l'heure. Plus de la moitié des employés noirs et près de 60% des latinos et latinas touchent moins de 15 dollars de l'heure également. L'industrie alimentaire, où en fait tout au long des emplois, tous les emplois au long du circuit alimentaire sont particulièrement touchés. C'est des emplois, alors qu'il s'agisse d'ouvriers agricoles, d'employés dans la transformation alimentaire, la logistique, la grande distribution et la restauration, et restauration rapide en particulier, comptabilisent à peu près 21 millions d'employés, qui constituent la plus grande concentration d'employés touchant moins de 15 dollars de l'heure. Les emplois à bas salaire, les principaux emplois à bas salaire en termes de nombre sont les emplois de caissiers, caissières et caissiers, et d'employés de vente dans la grande distribution. Ces deux fonctions représentent à peu près 5 millions d'employés. Et d'un autre côté, différentes recherches prospectives ont montré que si des 10 emplois les plus répandus parmi ceux dont le salaire médian est inférieur à 15 dollars de l'heure figurent par ailleurs parmi les emplois qui sont amenés à se développer le plus dans les prochaines années. La grande distribution et la restauration rapide figurent ainsi en tête des industries de main-d'œuvre à bas salaire, respectivement comptant 80 et 96% d'employés percevant moins de 15 dollars de l'heure. Pour revenir sur la question des employés, ce que les Anglais appellent les frontline jobs, c'est-à-dire les employés face aux clients, ça constitue dans la grande distribution 70% des emplois et dans le fast-food, 53%, et ce sont des emplois principalement tenus par des femmes. En termes d'âge, contrairement aux idées reçues, les emplois de la restauration rapide, mais aussi les emplois à bas salaire, sont généralement considérés comme des jobs étudiants, mais près de la moitié des employés ont plus de 35 ans. Je voulais revenir aussi sur la question du surchômage des Noirs, qui est plutôt sensible aux crises et insensible aux reprises. Pour donner une idée, on a une crise de l'emploi des Noirs depuis plusieurs décennies, sans forcément se focaliser sur la crise de 2008. Et malgré la signature du Civil Rights Act en 1964, qui interdit notamment la discrimination raciale au travail et dans l'emploi, le taux de chômage des Noirs représente au moins le double du taux de chômage des Blancs depuis 50 ans, tout en partageant un fort déclin en matière de salaire et de couverture sociale. D'un autre côté, ce chômage et l'emploi des Noirs est peu sensible aux embellis économiques. C'est-à-dire que lorsque le taux de chômage aux États-Unis a atteint les 8% en 2010, au plus fort de la crise, le taux de chômage des Noirs n'est jamais passé sous les 8%, y compris en période d'embellis économique. Je ne développerai pas véritablement aujourd'hui sur la question des crises et restructurations dans les services, mais pour en parler rapidement, dans la restauration rapide, les salariés d'encadrement qui occupent des emplois qualifiés ou techniques ne représentent que 2,2% de la main-d'œuvre. Près de 90% de la main-d'œuvre occupe un emploi non qualifié en contact avec la clientèle, tout en ayant de manière ponctuelle ou quoi, ce contact n'est pas forcément systématique et lié à la position, mais tout en ayant peu de possibilités de promotion. Donc on a un aplanissement des structures hiérarchiques dans la grande distribution et dans les fast-foods qui réduit les possibilités de promotion et qui aboutit à ce genre de situation. Une large majorité de la main-d'œuvre occupe des emplois non qualifiés en contact avec les clients, tant à davantage de polyvalence dans les tâches et de flexibilité horaire en termes de fractionnement, d'amplitude, pour un nombre d'heures de travail qui a beaucoup réduit ces dernières années, une forte hausse du sous-emploi depuis les années 2000. Donc ça conduit de nombreux employés qui travaillent dans ces industries à cumuler 2 ou 3 emplois de 20 à 30 heures par semaine. Les pénibilités qui sont liées au contact avec la clientèle se caractérisent par une adaptation des horaires et du rythme de travail en fonction de l'affluence et des sollicitations des clients. La multiplication des délais et des normes de production, aujourd'hui définies par l'organisation au nom de la clientèle, accroît les situations de tension entre cette dernière et les salariés, toujours en nombre plus réduit face au ralentissement de la croissance de ces deux branches. Je ne pense pas que j'aurai le temps de parler de la question des déviances des clients, peut-être à la fin, mais... Ouais, parce que, non, mais parce que j'essaie de développer un autre point. Pour résumer, ces campagnes d'une ampleur inédite sont originales à la fois par leur structure et leur orientation. Donc, la plupart des recherches sur la revitalisation du mouvement syndical se sont intéressées aux réorganisations internes des syndicats, au changement des mentalités et des pratiques, ou encore aux conditions du succès des campagnes d'organizing entre impulsions descendantes et montantes, questionnant donc la complémentarité des ressources, notamment militantes et financières, ainsi que les tensions qui pouvaient survenir entre la direction nationale et la base. Là, ce qui est intéressant avec ces campagnes, c'est qu'on a une double vision, à la fois d'une part centrée sur les travailleurs, donc ce qu'on appelle le worker-centered unionism, qui vise à former, à renforcer les capacités d'auto-organisation des employés, et une seconde qui s'appuie sur l'organizing, c'est-à-dire le fait d'avoir des employés, des personnes payées par le syndicat pour essayer à la fois de former les employés et d'un autre côté essayer de former des coalitions locales de manière à aboutir à un renforcement en fait du pouvoir des employés et une démocratie économique. Donc, lorsque dans la plupart des cas ces deux visions s'opposent, là on a des campagnes qui essaient de prendre en compte ces deux aspects. Donc pour revenir sur le principal aspect, sur le premier aspect, Fight for 15 se définit comme une association indépendante, d'abord réservée aux employés de la restauration rapide, avant d'être ouverte aux 64 millions de salariés touchant moins de $15 de l'heure, par l'intermédiaire d'organizers qui sont répartis sur tout le territoire en différentes entités indépendantes. Ils couvrent différentes zones locales, que ce soit des villes, des régions, des États. L'association organise des actions locales coordonnées à l'échelle nationale. Cette campagne vise à recruter, à former des employés, à s'organiser de manière autonome face à leur employeur. Donc sa création par SEIU part du constat qu'à court terme, une stratégie légaliste traditionnelle est systématiquement vouée à l'échec. La taille des entreprises, leur structure juridique, comme par exemple pour McDonald's, le fait que ce soit une entreprise basée sur un système de franchise, en tout cas 90% des restaurants sont franchisés, rend difficile en fait de syndiquer établissement par établissement. Donc, compte tenu de ces interdictions qui frappent les syndicats en matière de sollicitation des employés et de distribution de tracts sur le lieu de travail, ainsi que des ressources considérables nécessaires pour mener une telle campagne, les leaders occupent généralement le rôle d'informateur et d'organiseur dans des magasins et restaurants, mais aussi de figures de mobilisation. C'est-à-dire, alors les leaders, ce sont des employés qui sont formés par les organiseurs pour faire leur travail ou un travail assez similaire, pour recruter d'autres employés et leur parler sur le lieu de travail. Pour ce qui est de Fight for 15, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on a un National Organizing Committee, donc c'est un comité composé de leaders, c'est-à-dire d'employés des fast-food, qui se réunit régulièrement, à peu près une fois tous les mois. Et ce sont des employés, chaque employé représente, on a un employé qui représente une grande ville, on a une trentaine d'employés, donc chacun représente une grande ville, et ces employés discutent entre eux sans véritablement support ou directive du syndicat pour voir quelles sont les prochaines actions à faire, à la fois à l'échelle locale et nationale, pour voir ce qui a marché ou n'a pas marché. Donc, lors de ces quatre premières années de campagne, les membres actifs de Fight for 15 ont constitué de précieux ambassadeurs auxquels les organisateurs veillent à bien faire comprendre lors de réunions régulières qu'ils n'ont pas à craindre de représailles de la part de leur employeur et que leur engagement est régulièrement couvert par l'association. Là, je m'aperçois que je ne vais pas du tout avoir le temps de tout traiter. Donc, d'un autre côté, on a... ça renvoie au tableau de tout à l'heure, donc Communities de New Density. On est plus sur l'idée de se focaliser sur le fait d'avoir des membres directement dans le syndicat, mais le fait d'avoir de compter sur les associations, les coalitions locales pour faire pression sur au niveau politique, à la fois au niveau de la municipalité, au niveau de l'État. Donc on a des actions qui sont aussi le plus souvent des grandes actions médiatiques. Qui justement sortent peut-être du cadre du travail, et ce qui fait que généralement, dans les manifestations, même si on parle de strike, il y a très peu de débrayage et il y a très peu d'employés aussi, ce qui est aussi lié aux horaires et aux formes de tactique. Par exemple, pour le cas de Walmart, lors d'une manifestation régulière, lors du Black Friday, au bout de 2-3 ans, Walmart a compris en fait que les employés se mobilisaient ce jour-là et a réquisitionné à peu près 90% des employés pour travailler ce jour-là, simplement pour pas qu'il n'y ait ni débrayage, ni employés présents lors de ces manifestations. Donc je vais revenir sur la question... Là, on était sur l'intersectionnalité des luttes. En fait, dans les États du Sud, c'est quelque chose qui est nécessaire de compter sur les associations pour être présents là où les syndicats ne peuvent pas être présents. C'est-à-dire qu'on a, dans les États comme la Floride ou la Louisiane, on n'a aucune antenne locale. On peut chercher, quoi, j'ai cherché à Chicago, à Los Angeles, à New York, on trouve très facilement des antennes locales, des SEU et du FCW. Là, on ne trouve rien. Donc, je me suis posé la question des différents types d'actions rhétoriques employées lors des mobilisations, lors des différents échanges, manifestations, et je suis tombé sur trois principaux profils, trois principaux groupes. Alors, le premier, c'est l'influence du syndicalisme militant, sans pour autant nécessairement s'associer à une approche marxiste en termes de lutte des classes. Fight for 15 fait sienne les bribes d'une critique du capitalisme et une rhétorique de classe qui contribue à réhabiliter une vision dichotomique des rapports sociaux de production. L'organisation souligne très fréquemment les milliards de dollars de profits des enseignes de la restauration rapide. Elle tend à marquer une rupture entre le et le nous, qui renvoie une critique des grandes entreprises, de leurs patrons et des institutions financières réintroduites dans la conscience collective états-unienne par le mouvement Occupy. Le second groupe, c'est très sommaire, mais je développe un peu plus dans mon papier, le second pôle rhétorique renvoie davantage aux communautés locales, aux minorités, à l'histoire raciale du pays, de l'esclavage, aux mobilisations des immigrés latinos, en passant par les mouvements des droits civiques. Donc il y a différents mots qui sont utilisés, il y a différentes références en fait au mouvement des droits civiques, mais voilà, des références assez historiques et peut-être beaucoup moins appropriables par les plus jeunes, y compris si, comme à la Nouvelle-Orléans, même si à la Nouvelle-Orléans, 94% des employés des fast-food sont noirs, sachant que à peu près 60% de la population de la ville est noire. Après Katrina, après des formes de gentrification. Je voulais en revenir au troisième groupe parce que c'est quelque chose. Là, les deux premiers groupes, c'est des choses que j'ai développées en faisant ma recherche sur Our Walmart autour de Chicago et de Los Angeles. Mais il y a un troisième groupe qui est apparu et notamment depuis 2014 et qu'on voit vraiment dans les États du Sud. Ce groupe, en fait, alors je l'ai qualifié. On peut parler d'intersectionnalité radicale. Donc voilà, ce pôle se caractérise par une intersectionnalité radicale qui s'incarne dans le mouvement Black Lives Matter, mais aussi dans des organisations nationales telles que le Black Health Project, qui est implanté en Louisiane notamment, et ainsi que Dream Defender, qui existait avant 2014, qui existe depuis 2012, et la mort de Trayvon Martin en Floride. Donc c'est des groupes qui comptent parmi leurs conseillers consultatifs des activistes féministes noires et chercheuses telles que Angela Davis ou Michelle Alexander. Donc Michelle Alexander qui a écrit sur le nouveau Jim Crow, sur le système, sur le Prison Industrial Complex, donc le complexe. Ouais, bon, vous traduisez. Donc ces organisations sont beaucoup moins structurées, se veulent horizontales. Elles souhaitent remettre à l'ordre du jour un mouvement de libération noire visant à l'organisation des jeunes noirs et latinos. Latina et latino, des classes populaires. Donc c'est une intersectionnalité radicale car elle entend embrasser une triple oppression, capitalisme, impérialisme et patriarcat, à travers une réflexion permanente sur les effets de ces dominations conjointes, c'est-à-dire qu'un racisme qui ne se limite pas aux violences policières envers les hommes noirs, mais qui interroge les logiques structurelles qui conduisent de nombreux noirs de l'école à la prison, l'invisibilisation des femmes et trans dans les mouvements qui dénoncent les violences policières et les crimes envers les noirs et racisés, une sous-représentation des femmes et des LGBTQ dans les mobilisations autour des thématiques du travail et de l'emploi, de la justice et de la police, alors qu'elles et ils... Merci. Alors, quels et ils sont le plus souvent les premiers concernés? Donc, plus jeunes, plus radicaux et intersectionnels que les soutiens syndicaux encore marqués par les politiques et stratégies syndicales qui font fi des questions raciales. Donc, on parle de color blindness. Sous l'influence du Parti démocrate et partagé par toutes celles et ceux qui voyaient en l'élection de Barack Obama le début d'une ère post-raciale et à travers le mouvement des droits civiques, une inspiration. Donc, là, c'est un groupe qui, à travers nous, c'est une approche assez critique des droits civiques. dans la presse, dans les médias, on s'intéresse à Black Lives Matter en l'opposant donc comme a voulu le montrer Trump, au fait que la vie des Blancs ne compterait pas ou des choses comme ça. Mais la définition donnée est assez simple et c'est davantage une question de représentation parmi les populations noires. Ce qu'on peut lire sur le site, c'est que Black Lives Matter entend dépasser le nationalisme étroit qui prévaut dans les communautés noires, qui, tout en appelant les Noirs à s'aimer, à vivre et à acheter noir, mettent au centre de leur mouvement la seule figure de l'homme noir hétérosexuel. Merci. Bon, je conclue. Donc, Black Lives Matter affirme que la vie des Noirs, queer, trans, mais aussi des handicapés, des sans-papiers, de celles et ceux qui ont un casier judiciaire et de l'ensemble des vies noires situées tout au long du spectre du genre compte. Donc, le mouvement se centre sur celles et ceux qui ont été marginalisés par le mouvement de libération noire et entend reconstruire ce dernier. J'allais parler des contradictions, mais je n'ai pas le temps. Donc, pour conclure, j'ai pu assister à des manifestations d'organisateurs qui eux-mêmes ne sont pas syndiqués au sein de SEIU, des employés qui veulent défendre les gens qui étaient là pour les former. Donc il y a pas mal de dynamiques qui se créent. Il y a même des groupes qui se sont inspirés de cette démarche de SEIU pour tenter d'organiser leurs établissements, mais sans le côté médiatique, sans le côté hiérarchique qu'on retrouve quand même, que SEIU veut cacher, mais qui est vraiment présent, qui était beaucoup plus présent dans la campagne pour Walmart, qui s'est un peu estompée et qui a été reprise depuis par SEIU, dans le sens où le syndicat n'a plus voulu financer cette campagne qui coûtait extrêmement cher. Donc, en prenant... oui, non, je ne vais pas parler des élections, là, ça va être trop long. Vraiment. Donc, le problème, c'est, d'un côté, on peut penser qu'on a abouti à une intersectionnalité de marché, c'est-à-dire que c'est des populations qui ont été ignorées pendant très longtemps par les syndicats, et aujourd'hui on peut se demander si on n'est pas encore dans un syndicalisme de marché ou simplement on change de marché en allant vers les populations noires, principalement autour des grandes villes, qui, même si ce ne sont pas nécessairement des bastions syndicaux, sont des bastions associatifs, et à en oublier en partie, notamment à travers la rhétorique et les actions d'organizing, toutes les populations pauvres, à la fois les noirs de plus de 35 ans, vraiment pour faire des catégories, tous les blancs également dans ces métiers, mais qui sont dans les États, dans le Midwest et dans le Sud profond, mais loin des grandes villes. Donc ça peut poser un problème de ce côté-là, mais il y a aussi la question, donc, à travers, ça a été développé dans un rapport qui s'appelle Black Workers Matter, qui montre que le discours intersectionnel radical ou la simple vocation du racisme structurel demeure inaudible parmi les travailleurs des fast-food travaillant hors des agglomérations urbaines et majoritairement blanches. Voilà, je vous remercie.